Delacroix.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 23h32 sur Europe 1. Je m'attendais, je sais pas, à autre chose derrière ce jingle, mais voilà, il n'y avait rien. 23h32 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne. Vous savez que vous pouvez composer le 3921 et que nous pourrons peut-être, comme je viens de le faire avec Anne, échanger si vous avez envie de nous parler de vous et que nous, peut-être, nous pourrons arriver à avancer. En tout cas, nous pourrons peut-être évoquer des chemins, des solutions. Vous savez où nous trouver, chers amis, 3921. On accueille maintenant Patricia au 3921, mais avant, je dois envoyer toute mon affection et surtout faire un gros baiser à Patricia, qu'on appelle Pépé, qui est aide-soignante à la retraite et qui est du côté du Havre et qui nous écoute tous les soirs. Et ce soir, son fils Pierrot, mon ami Pierrot, alors ça n'est pas la chanson, c'est vraiment mon ami, c'est l'ami d'un ami, donc l'ami de mes amis sont mes amis. Eh bien, on souhaite les embrasser. Alors, gros baiser et grande pensée pour Patricia, dit Pépé, du côté du Havre et son grand dadé de fils. On vous embrasse bien fort. Voilà, on accueille une Patricia, tiens, justement, au 3921. Bonsoir, Patricia.
Bonsoir, Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Patricia, et quel âge avez-vous ?
Alors, j'appelle dans l'Ain, j'ai 54 ans, et déjà, je voudrais vous dire un grand merci de m'accueillir à la radio ce soir.
Oui.
Mais que ce n'est pas la première fois, parce qu'il y a quelques mois, je vous avais appelé un peu dans l'urgence. J'avais énormément besoin de témoigner mon histoire. J'étais à l'époque en grève de la faim, j'étais psychologiquement un peu à bout. Et vous m'avez entendu, vous m'avez aidé.
Oui.
J'ai demandé de l'aide aussi aux auditeurs de signer une pétition, chose qu'ils ont faite en masse. Et depuis, ma vie a été transformée. Mais je vais vous raconter tout ça plus en détail maintenant.
Ouais. Avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, on vous écoute.
D'accord. Normalement, ce soir, c'était pas moi qui devais témoigner, mais une amie qui s'appelle Véronique,
oui,
qui habite à Nantes. Et en fait, nous menons le même combat toutes les deux. Donc mon histoire à moi, c'est qu'avec mon mari, nous sommes paysans boulangers. On a accueilli un jeune exilé qui vient de Guinée-Conakry,
oui,
qui est arrivé à l'âge de 14 ans en France. Et qui a été très bien accueilli dans une institution d'enfants. Et voilà, le protocole dit que pendant l'enfance, le jeune doit s'intégrer à la France, doit travailler, doit faire des stages, doit apprendre la langue. Et vraiment, il y a une exigence extrême. Donc le jeune, on lui fait miroiter que s'il fait tout bien, il y a de très grandes chances pour qu'il puisse rester en France. Donc le gamin se donne à 200% pour tout réussir et avoir un parcours sans faute. Donc bien évidemment, pas de problème avec la justice. Et le jour de ses 18 ans, le coup retombe, on lui dit qu'il doit quitter la France et retourner dans son pays.
Mmh.
Donc voilà, enfin avec mon jeune protégé qui s'appelle Yaya, on a vécu ça. Donc 4 ans de papiers administratifs qui sont tombés à l'eau le jour de ses 18 ans. Et mon amie Véronique que je représente ce soir, donc une patronne avec, elle est patronne dans le milieu du bâtiment avec son mari qui s'appelle Alain.
Oui.
Tous deux vivent à Nantes. Ont une entreprise qui fonctionne bien et leur petite vie menait un long fleuve tranquille jusqu'à ce qu'un jour, un jeune exilé comme notre Yaya à nous frappe à leur porte. Hein. Ce sont un peu des gamins qu'on nous met dans les pattes hein, parce qu'il faut les placer pour qu'ils prouvent leur intégration. Donc, chose qu'ils ont faite par respect pour la société. Il fallait être utile, faire quelque chose pour faire avancer. Donc, ils ont accepté ce gamin. Et malheureusement, Ça a été, comme nous, un laborieux parcours administratif oui. pour qu'il obtienne un récépissé de droit au travail pour pouvoir l'accueillir en apprentissage.
Oui.
Voilà. Alors, ce qui se passe pendant ce temps, c'est que ce gamin, ben, il excelle dans ce métier du bâtiment.
Oui.
Et très rapidement, il se retrouve dans un concours au meilleur apprenti de France. Et il obtient une excellente note et une médaille d'argent. Donc, preuve que non seulement il est intégré, mais c'est qu'il a vraiment toute sa place dans l'artisanat auprès de ces gens qui prennent soin de lui en tant que patron et qui prévoient un avenir serein. Et au jour de ses 18 ans, alors qu'il n'a même pas fini sa formation, on lui demande de partir.
On lui demande de partir parce qu'il n'a...
Je suis là ce soir pour témoigner de cette histoire. C'est parce qu'il y a urgence. Aujourd'hui, ce n'est pas une, mais deux personnes en péril. C'est Ibrahima. Hein, ce jeune s'appelle Ibrahima. Est désespéré, a commis l'irréparable dernièrement. Un coup de folie. Il a pris des médicaments par désespoir parce que la France lui interdit de continuer sa formation. La France lui oblige à rester enfermé dans un appartement parce qu'il n'a plus le droit de travailler, il n'a pas de papier, donc il a peur pour son avenir, il a peur d'aller en prison. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, parce que le risque, c'est d'être emmené en centre de rétention et de repartir dans son pays. À savoir qu'un enfant qui quitte son pays à 14 ans, si on prenait tous le temps maintenant là, d'y réfléchir, de se poser et de s'imaginer un enfant de 14 ans, 13 ans, 14 ans, qui part de son pays, qui quitte tout pour sa survie, qui, pendant son parcours, se fait emprisonner, parce que c'est des parcours qui durent un an, deux ans, voire plus. Donc, ce sont des gamins qui sont maltraités, qui sont vendus, qui sont exploités, à qui on demande de faire des travaux pour pouvoir payer leur traversée de la Méditerranée. Des parcours chaotiques, avec parfois ça n'arrive pas jusqu'à la France. Hein. On a su dernièrement, ben, malheureusement, le naufrage qu'il y a eu en mer et tous ces morts. Et ces enfants sont prêts à tout affronter pour quitter le pays où ils risquent leur vie. Donc comment nous, en France, nous qui manquons de rien, nous qui avons besoin de ces jeunes pour travailler, je parle des petits artisans dans les métiers de l'hôtellerie, dans les métiers de la boulangerie, dans les métiers du bâtiment, de la mécanique. Enfin, il y a énormément dans l'artisanat de place à pourvoir. Pourquoi, et c'est vraiment la question qui reste sans réponse, pourquoi on ne favorise pas l'intégration de ces jeunes qui veulent travailler, qui veulent... rembourser bien évidemment la dette qu'ils ont envers le pays d'accueil. Et à travers toutes ces difficultés que ces jeunes rencontrent, parce que nous, patrons, on l'a vécu, hein, ce parcours chaotique, autant qu'eux, on a monté une association dernièrement, enfin il y a un an. C'est Stéphane Ravaclet qui en est le président. C'est un boulanger qui a le premier, hein, qui a fait une grève de la faim pour son apprenti. Et suite à ça, moi personnellement, la grève de la faim, c'était pas quelque chose que je trouvais envisageable, qui était vraiment démesuré. Mais je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc quand on a épuisé toutes les solutions administratives et qu'on est face à un mur, peut-être que la dernière carte, elle est extrême, mais tout est à envisager pour pouvoir sauver ces gamins.
Mais complètement, tout est à envisager. Le souci, c'est que... Vous voyez, si c'était dans des... des domaines où il y avait, je ne sais pas, il y a des filières qui sont bouchées en France. On est d'accord ?
Oui.
Ou pas ? Dites-moi si on est d'accord ou pas.
Ça n'est pas moi le professionnel.
Ça n'est pas moi le professionnel.
Par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, de février 2020 à février 2021, il est parti 237 000 salariés, dû à la crise sanitaire, bien évidemment. Mais ce sont des postes qui sont à pourvoir actuellement. Dans la boulangerie, il y a 9 000 postes à pourvoir. Alors, je parle pour nous, un petit boulanger en campagne. Jusqu'à présent, voilà, il y a des écoles, il y a des CFA, il y a des très bons élèves, mais qui ne sont pas très favorables à venir travailler à la campagne de nuit, de surcroît. Et je ne veux pas dire que nos enfants français ne sont pas courageux, hein, ce n'est pas du tout ce que j'imagine. Mais il y a des secteurs qui sont un petit peu plus complexes que d'autres. Donc nous, on accumule un peu toutes les difficultés. On travaille de nuit dans la boulangerie, on est excentré de la ville. Ça fait beaucoup d'éléments pas très positifs, j'ai envie de dire. Et des jeunes comme Yaya, ce sont les bienvenus.
Bien
parce
évidemment.
Que ce sont les seuls qui viennent taper à notre porte pour venir travailler.
Et pourquoi, voilà, pourquoi, vous venez de le dire. Parce que ce sont les seuls à vouloir faire ces travaux, à travailler comme ça, parce que c'est dur. Est-ce que, vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez remarqué, lorsque vous passez près de chantiers, hein, des chantiers bâtiments, hein, BTP, est-ce que vous avez vu les gens qui sont sur les routes, les autoroutes, qui mettent le goudron, les trucs qui sont durs? Est-ce que vous avez remarqué ceux qui sont dans les gros chantiers de métro, des trucs ferroviaires, où on doit porter des gros trucs soudés? Regardez qui sont ces personnes qui travaillent. Écoutez quelle langue se parle sur ces chantiers. Et vous ne ferez que constater quelque chose, c'est que ce sont des gens qui souvent parlent une langue étrangère et donc pas une langue française, ou alors avec un accent. Et posons-nous la question, pourquoi autant de situations qui se multiplient comme celle-là ? Personne ne force aucun patron de BTP à employer uniquement des personnes issues de l'immigration. Pourquoi cela arrive ? C'est parce que aujourd'hui, il y a des postes, des tâches, et bien que certaines personnes ne veulent plus faire, et que seuls ceux qui viennent de pays où on a eu faim, où on a failli perdre la vie, où gagner un euro est un truc extraordinaire, et bien le font. Et je ne vous parle pas là, je ne vous fais pas une tirade politique, je vous parle d'une réalité. Et la réalité dont vous parlez, Patricia, c'est celle-là. Dites-moi si on est sur la même longueur d'onde.
Oui, oui, complètement. Mais vous avez parlé de politique et bah, bien évidemment...
Non, je précise. Je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique parce que ça n'est pas mon rôle ici de faire de la politique. Je dis simplement quelque chose. Mon rôle, vous savez, à l'école de journalisme, on m'a appris un truc et que je fais, hein, que j'essaye de faire dans mes films, dans Les yeux d'Olivier, comme à la radio. J'essaie de ramener ma perception des choses et de ne pas la fantasmagoriser ou de la faire passer dans des filtres de mes préférences. Non, j'essaie en tout cas de ramener la réalité de ce que je vois quand je parle dans un micro ou quand je suis devant une caméra. Je ne fais pas de politique. La politique, je la laisse aux autres. Je vous la laisse à vous, Patricia, parce que vous êtes
d'accord, mais justement, moi, je voulais vous demander, Olivier, s'il vous plaît, faites de la politique parce que vous êtes un altruiste, vous avez de l'empathie, vous avez du charisme, vous êtes connu. Donc il faut faire de la politique. Alors, parce que nous, on a besoin de vous.
On va marquer.
Il faut
on
dépoussiérer
va marquer.
Les vieilles lois.
Oui.
Il faut, parce que tout pourrait être beaucoup plus simple.
Mais on va marquer
avec
une petite
l'association
pause.
Patron Solidaire, on travaille à ça. On a fait. On a Stéphane Ravaclet a amené une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour dire mais ces gamins, déjà, il faut les prendre en charge jusqu'à 21 ans et pas 18, tout comme nous, on prendrait en charge nos enfants un peu plus tard que la majorité, parce qu'à 18 ans, on va pas dire qu'ils ont leur diplôme autonome et qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. C'est faux. Donc, laissons-leur le temps à ces gamins de finir leur formation et de prouver qu'ils sont déjà capables de cotiser en travaillant et de rembourser leurs dettes à la France, parce que la France les a accueillis, a dépensé de l'argent, et de bien comprendre qu'ils ne sont pas là pour profiter de la France, mais bien pour travailler, cotiser et être utiles dans des métiers où on a besoin de... Donc tout pourrait être beaucoup plus simple. Nous, on les a, les solutions avec Patron Solidaire.
Vous êtes
partie
dans une tirade et je dois faire une pause. Alors je suis désolé, je dois vous interrompre. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais on fait une pause et puis on se retrouve tout de suite. À tout de suite.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Il est 23h48 et vous êtes sur Europe 1. Vous pouvez composer le 39-21, je vous le rappelle, et peut-être nous échangerons ensemble tout à l'heure. Patricia, pour répondre à votre question, je pense que jamais je ne ferai de politique parce que j'ai pas envie de finir en prison ou avec, je ne sais pas. Moi, là, c'est ce que ça me fait peur, la politique. Donc, mais vous n'êtes pas la première à me le dire, mais ça, vous savez, je pense que dès que vous avez une capacité de vous exprimer, tout ça, ça peut faire penser à ça. Mais la politique.
Personnellement, j'en faisais pas non plus de la politique avant. Mais là, on demande à rencontrer tous les candidats à la présidentielle pour transmettre ce qu'on connaît maintenant sur ces enfants exilés et puis surtout leur proposer des facilités puisque les lois sont vraiment trop anciennes, pas du tout d'actualité.
Bien évidemment, en fait, je vais répéter ce que j'ai redit tout à l'heure, mais avec quelques mots. Ces jeunes, on a besoin de jeunes comme ça aujourd'hui en France, mais dans les temps que nous traversons, en plus, chers amis, où finalement la peur est cultivée en permanence, la peur de l'autre. Le fantasme de l'étranger. Ces gamins-là dont vous parlez, Patricia, représentent justement ce monde actuel, ce monde nouveau qu'est le nôtre aujourd'hui, et que même si certains n'en veulent pas de ce monde, c'est impossible, la marche est en marche depuis, c'est incontournable. Demain, chaque pays sera de plus en plus enclin à se métisser, à se mélanger, parce qu'on n'a qu'à simplement voir. L'autre jour, je regardais une carte du monde avec le nombre de conflits dans le monde, mais c'était complètement effrayant de voir le nombre de conflits qu'il y avait dans le monde, de guerres donc. Comment voulez-vous que, entre le réchauffement climatique, entre les famines, en ce moment, à Madagascar, dans le sud de Madagascar, les gens crèvent de faim, j'ai vu ça à 7 à 8 l'autre jour, entre donc le réchauffement climatique, les guerres, tous ces, au nom des religions, tous ces fous qui font déplacer les populations. Comment voulez-vous ? Moi, je disais à quelqu'un l'autre jour qui me tenait un discours un peu, j'ai pas envie de dire extrême, mais de peur. Si toi, tu étais né là, dans un pays où d'un seul coup, on menace de couper la tête de ta mère, de ton père, de tes sœurs, qu'est-ce que tu ferais, quoi ? Moi, je sais ce que je ferais. Mais je prendrai mes jambes à mon cou et je me barre et je vais dans un pays où au moins je peux vivre, ne serait-ce que vivre. Et une fois que je suis arrivé dans ce pays, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je travaille, j'essaie de creuser mon trou. Et c'est de ces mômes-là dont on parle ce soir, dont Patricia nous parle. Ce ne sont pas ceux qui font des conneries, qui braquent... Parce que je pense que ceux-là... Bon, bien évidemment, il y en a, mais la grande majorité des... J'en connais, en fait. Vous savez, Patricia, j'en connais. Je vais souvent à Paris. Vous savez, dans tous les restaurants à Paris, il y a plein de gens qui viennent du Bengalais, des petits jeunes qui cumulent deux ou trois boulots parfois et qui dorment à 20 dans un... Enfin, ils vivent dans des... Ce sont des gens hyper courageux. Ouais. Et qui travaillent, qui ne volent pas, qui ne trafiquent pas de drogue, qui sont... Ils travaillent. Donc voilà, c'est de ces jeunes-là dont on parle. Donc, j'espère que vous allez être entendue, Patricia. J'espère que vous allez être entendue.
Oui, mais là aujourd'hui, pour notre histoire à nous, ici à la ferme, les choses se sont vraiment bien résolues parce que grâce à vous, la préfète a ouvert le dossier d'Yaya. Elle a vu qu'il était complètement légitime pour pouvoir rester ici. Tout s'est bien passé. Il est en apprentissage. Il a de très bonnes notes à l'école, au boulot. C'est vraiment que du bonheur. Donc, notre histoire se termine bien. Donc, on a une procédure d'adoption qu'on voulait faire après les papiers. Mais on voulait pas que l'adoption soit un prétexte à l'obtention des papiers. On voulait vraiment que ce soit pour qu'ils fassent partie de notre famille. Donc ça, c'est une évidence. Notre histoire se finit bien.
Oui,
mais moi, je parle aussi pour... Je voudrais en revenir à Véronique parce que il y a deux personnes donc ce soir en difficulté. C'est Ibrahima qui est obligé de rester enfermé, qui peut plus travailler, qui n'a pas fini sa formation. Et justement, par rapport à ça, j'ai envie de parler de cette France qui, du coup, impose à ces jeunes de rester cloîtrés, hein, puisqu'ils n'ont plus du tout de vie. Donc, leur jeunesse, en gros, elle est sacrifiée. Mais aussi, comment font-ils ces jeunes quand ils sont en apprentissage avec un salaire, un appartement et une vie décente? Comment ils font le jour où ils reçoivent l'obligation de quitter le territoire pour continuer à vivre? En gros, il se passe quoi dans leur vie pendant un an, deux ans d'attente?
C'est l'horreur. Il se passe qu'ils ne peuvent rien faire. Vous me posez la question à moi? Moi,
ce serait peut-être favoriser plus tard soit des dépressifs, soit des délinquants. Ils arrivent avec un enthousiasme, avec une ferveur, avec une ardeur de vivre. Et arrivé à 18 ans, toute la désillusion. Donc, c'est terminé. Ils ne voient pas la finalité. Et ils perdent complètement confiance en tout ce que la France avait promis à leur arrivée. Donc, je pense qu'on peut rajeunir toutes les lois. On peut rester optimiste. On peut changer les choses vraiment. Les simplifier vraiment dans les bureaux en préfecture, avoir des intervenants qui les convoquent, qui les accompagnent. Nous, à la ferme, on a un projet...
Comme vous l'avez fait, vous.
Oui, mais c'est pas au patron à se battre, à faire des grèves de la faim, des manifestations dans les rues. Je veux dire, on dépense une énergie folle en tant que patron, même là avec notre association. On se déplace à Reims pour des patrons, on se déplace à Nantes. On fait des actions le plus utiles possible auprès des patrons et des apprentis parce qu'on a vécu la même chose, mais c'est de l'énergie, c'est de l'argent et c'est pas normal. Pas normal que ce soit le patron qui fasse ça.
Non, ça n'est pas normal. Alors, il nous reste deux minutes trente, Patricia. Est-ce que la prochaine étape, vous allez aller voir qui?
Alors là, l'urgence là pour Véronique et son mari à Nantes et Cobichon qui ont une entreprise dans le bâtiment, c'est que la préfecture ouvre le dossier d'Ibrahima et le laisse finir sa formation. Voilà, ça c'est l'urgence.
C'est l'urgence. Et est-ce que ce jeune guidéen en fait dont vous parlez, il est un peu dans la même situation que votre enfant adoptif, hein, celui qui travaille avec vous aujourd'hui?
C'est exactement le même
cas de figure. Bon, bien évidemment, vous qui nous écoutez du côté de Nantes et qui travaillez peut-être à la préfecture, sachez que, vous le savez, il y a ce jeune qui travaille, c'est pas compliqué de constater, de regarder les fiches de paye, de faire le travail. Juste un jour, une personne qui se déplace pour faire une enquête de moralité, comme on dit, et de voir comment ce jeune travaille. Et je pense que c'est, ça a été possible pour Patricia à un moment. Ça doit être possible pour votre amie Véronique.
Ce soir a été dans l'incapacité totale de témoigner tellement elle angoisse par rapport à la situation de son apprenti. Et vraiment, c'est par solidarité que je témoigne pour elle. Je veux vraiment qu'il y ait une suite favorable et j'ai grand espoir. Margot aussi, qui mène aujourd'hui, qui est notre référente patron solidaire à Nantes. Margot qui fait un travail formidable, hein, c'est une bénévole qui prend la relève auprès d'Ibrahima et qui communique très souvent à la radio, des radios locales pour stimuler un petit peu, activer tous ces papiers là qui traînent et ces réponses qui tardent et qui fatiguent énormément les patrons.
Les choses vont être, j'espère, vont bouger, bien évidemment. Et ce soir, je reçois, bien évidemment, aussi des SMS de personnes disant qu'ils étaient hier au meeting de M. Zemmour. Et je pense, chers amis, vous qui m'écrivez, qui écoutez la Libre Antenne et qui êtes derrière, visiblement, Monsieur Zemmour, eh bien, je pense que vous semblez vous réjouir de ce que nous racontons ce soir, mais oui, je pense que Monsieur Zemmour, lui, il reconnaît il reconnaîtra le mérite, comme on dit, chaque personne qui travaille, qui veut s'intégrer. Je crois l'avoir bien écouté. Eh bien, je pense qu'il l'accueillera les bras grands ouverts. Merci Patricia, en tout cas, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Et puis, vous nous tenez au courant, surtout Patricia, d'accord ?
Oui, merci Olivier.
Je vous embrasse bien fort.
Je rappelle le plus vite possible pour vous donner la bonne nouvelle.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Au revoir.